Il est 8h22.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous avez la parole dans une dizaine de minutes. Vous pouvez intervenir sur l'application mobile de France Inter, sur les réseaux sociaux ou au 01 45 24 7000. Bonjour Alexis Corbière.
Et bonjour, bonne année à tous.
Et merci aussi à vous d'être sur Inter ce matin. Parlons du grand débat national pour commencer. Il a atteint son rythme de croisière. Vous prédisiez un méga flop, Alexis Corbière, mais ce sont 500 000 contributions qui ont été envoyées jusqu'à présent. 3 000 débats organisés en France. Pas mal quand même, non, pour un flop?
Bon, pas terrible, mais c'est pas le sujet. J'ai dit que ce qui serait un flop, c'est confirmé, c'est que c'est annoncé comme un grand débat. Et tout ça va terminer comme un grand dégât. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est sur quoi ça atterrit tout ça. Il suffit pas de dire des contributions. Bon, on peut faire plusieurs contributions. Ça veut dire que quand même, le nombre de gens qui est sans doute même pas le nombre d'adhérents d'En Marche qui est annoncé. Mais c'est pas le sujet, c'est ça agite. Mais qui c'est qui décide à la fin d'un débat?
Du débat naît la lumière.
Non, oui, merci, belle formule, magnifique, retenons-la et notons-la.
Mais vous n'y croyez pas.
Non, mais le débat, c'est intéressant. La question, c'est que si le peuple a la parole, le peuple doit décider. C'est le fond du sujet. Le mouvement des Gilets jaunes, à travers ce qu'il exprime, peut montrer quelque chose de lumineux, pour reprendre votre expression, c'est-à-dire que ce pays, à travers, d'abord, pour prendre par la question sociale, la question fiscale, se pose la question aussi de ses droits démocratiques, de nouveaux droits démocratiques. Il veut retrouver sa souveraineté. Et d'un seul coup, ce que propose Macron, ce qui est une astuce politique, vous savez, c'est l'effet Cubango, je sais pas, c'est un fleuve d'Afrique, magnifique fleuve, qui termine dans le désert. C'est ça qu'il veut faire, Emmanuel Macron. Il y a une grande protestation, il veut que ça termine dans un truc qui, à la fin, ne trouve pas un débouché sur la mer.
Vous
un
en
débat,
êtes sûr
un
vous
débat,
en êtes sûr.
Oui, c'est ma conviction, mais je m'oppose pas à ce que les gens aillent débattre. Mais je dis débattre pour qu'à l'arrivée, ce soit Emmanuel Macron et quelques proches qui décident des thèmes retenus est une astuce politique. Voilà. Soit le peuple a la parole et à la fin, il tranche. 44 millions d'électeurs tranchent un débat. Si vous faites une grande consultation, une opération Tupperware où, d'un seul coup, Emmanuel Macron, en bras de chemise, vient parler devant des notables avec une écharpe où il répond à toutes les questions.
Non, mais là, j'appelle je vous parle pas des 500 000 citoyens, c'est pas une opération
oui,
Tupperware.
Mais qui retiendra leurs idées?
Alors,
sur la base de quels critères?
Vous avez quitté le comité de suivi, vous auriez pu.
Ah, c'est ma faute,
non,
si
non,
c'est
mais
Emmanuel Macron. Mais
non,
pourquoi
vous posez la question qui
parce que
vous auriez pu surveiller le processus de l'intérieur.
Mais parce que ça a été dit clairement. Je n'accepte pas cette idée qui est une forme d'ancien régime pour ceux qui connaissent l'histoire, où le monarque présidentiel convoque les états généraux pour les écouter d'une oreille somnolente et retiendra deux ou trois thèmes qu'on a bien voulu lui dire. Moi, ce n'est pas ma conviction. Je suis républicain et je pense que ce qu'il faut garder pour être positif une fois de plus,
mais ça,
c'est qu'il y a de grands
aujourd'hui. Pardon Alexis Corbière, mais quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, vous avez le droit d'en penser ce que vous voulez. Est-ce que vous n'avez pas sous-estimé ou raté le besoin de dialogue des
Français? Mais il faut le dialogue,
Français.
Ah, pas du tout. C'est Emmanuel Macron qui
non,
l'a
raté.
Non,
mais quand vous dites bof sur les 500 000 contributions, c'est-à-dire qu'il y a quand même 500 000 personnes ou sans
mais
doute
c'est
un peu
bien, mais
qui vont sur internet,
mais
qui écrivent, voilà
mais
ce qu'on propose.
Mais je les félicite
voilà
en plus, c'est pas
donc,
mon sujet.
Donc il y a quand même une envie de parler, de s'exprimer, de s'engager. Est-ce que ça c'est pas le bienfait du grand débat national?
Non,
est-ce
l'intuition qui est juste au terme de je ne sais plus trop combien de semaines de mobilisation que le peuple veut la parole, et on est d'accord. Et moi je trouve que je comprends très bien cette envie de gens de mettre des contributions sur le site. La seule question c'est que moi qui suis un responsable politique, je dis aux gens, ce travail que vous faites à l'arrivée, normalement, vous devez vous pouvoir le trancher. Qui va le retenir? Là où il y a une astuce politique, je le répète, c'est qu'on n'organise pas un débat en disant la parole au peuple, mais moi, je retiendrai les thèmes que je veux. Non. Si, moi je suis pour que nous rentrions, et je pense qu'on est passé depuis 2 ans dans un moment destituant du pays, qui s'est même exprimé à l'occasion de l'élection présidentielle, qui s'exprime dans ce moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire le consentement à l'autorité est contesté. Le simple fait qu'Emmanuel Macron comprenne qu'il faut un débat est la preuve que l'élection n'a pas tranché nombre de sujets. Comment on s'en sort positivement, pacifiquement, si ce n'est en remettant sur la table une idée que nous avons mis sur le fait que ces institutions sont à bout de souffle, l'abstention est là, 55% des gens ne vont plus voter, même quand il y a une élection un an plus tard, on conteste celui qui a été élu. Donc il faut revenir à des grands moments de notre histoire nationale, rediscuter de nouvelles institutions et notamment que les citoyens élisent, c'est ma proposition, des représentants, des députés constituants dans le cadre d'une assemblée constituante conformément à notre histoire nationale et que nous allions vers de nouvelles institutions.
vous appelez...
Attends, je termine là-dessus. Pour de nouveaux droits. Moi, je vois ce qu'a... Les gens, ils veulent contrôler les élus. Nous, on proposait le droit de révoquer, la prise en compte du vote blanc. Pourquoi pas réfléchir à de nouvelles institutions politiques où il y aurait des gens tirés au sort qui permettraient de
contrôler... Mais c'est ouvert, non? C'est ouvert.
Non, mais moi, ce que je ne veux pas...
Beaucoup de gens proposent le vote blanc, de prendre en compte
le vote
blanc.
Mais je sais, il y a même 7 millions de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, qui l'ont proposé. Le ridicule, que moi, je vais pas aller sur le site là pour remettre mon programme L'Avenir en commun, c'est connu. Emmanuel Macron sait ce que je pense. Il y a même un endroit, ça s'appelle le Parlement, où en permanence, tous les jours, même la nuit, je dis ce que je pense. Une fois de plus, là où je suis républicain jusqu'au bout. Si on donne la parole au peuple, et ça, c'est une bonne intuition, on lui donne la parole aussi pour trancher les choses. Et là où il y a ce que j'ai tout à l'heure, au début c'est un grand débat et à la fin c'est un grand dégât, c'est que si on dit aux gens, ces 500 000 personnes, vous avez la parole, mais qu'à l'arrivée, c'est une commission réduite et un homme seul qui décide de ce que je retiens, et je vois qu'il y a des petits thèmes qui montent, soi-disant qu'il y aurait la question du non-cumul des élus qui reviendrait, la limitation de vitesse, il y a des sujets qui sont annexe en vérité, alors que c'est la question sociale et la question démocratique.
Allez, on avance.
Non, mais c'est important. Moi, je suis pour passer dans une nouvelle république. C'est ça que nous dit le mouvement des Gilets jaunes, et même que toutes les élections, tous les résultats nous disent depuis des années.
Pour le moment présent, vous appelez, j'imagine, à ce que à ce que la mobilisation des Gilets jaunes se poursuive. Vous soutenez ce mouvement de grève générale dans le sillage de l'appel à la grève de la CGT la semaine prochaine. Pour parler clairement, essayons de parler clairement, Alexis Corbière. Le scénario idéal, c'est quoi pour vous dans les prochaines semaines? Une insurrection immense?
Non, mais ce qui...
Non mais c'est une question ouverte.
Non, mais j'entends bien. Cette grande protestation, elle est là, tout le monde. D'accord, 11 à 12 semaines de mobilisation. C'est quelque chose qui est important, qui est inédit. C'est sans doute un des mouvements sociaux le plus long depuis quelques années.
C'est quoi la suite ?
Et alors, c'est une manière aussi de répondre. Le grand débat est là pour dire par le gouvernement, ne vous mobilisez plus, ne créez plus de rapports de force, libérez les ronds-points et venons discuter sagement dans le cadre des mairies.
Donc,
cette mobilisation, elle montre du 5 février, j'y appelle les amis, participez-y autant que possible. Que dans les usines, dans les lieux de travail, partout, et y compris que les citoyens puissent s'associer véritablement à ça, et c'est une bonne chose. Oui, afin de faire entendre et de contraindre le gouvernement de cesser sa politique actuellement et de revenir, moi je pense qu'on est à un moment, je viens de l'exprimer lors de votre première question, où il faut en revenir devant le peuple souverain.
Donc vous demandez toujours la dissolution?
Mais pas seulement la dissolution, c'est-à-dire que si c'est dans le cadre de la 5e République, je pense que nous ne réglerons pas tous les problèmes. Je pense que ce mouvement est lourd, il porte en lui la volonté que nous rediscutions démocratiquement de nouvelles institutions. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, la monarchie présidentielle...
C'est ça, on reste dans la rue, on continue à pousser.
Mais pour obtenir une voie pacifique de règlement de tout ça. Je veux dire, ne cherchons pas à pourrir ce mouvement tel que le fait le pouvoir en refusant de l'entendre. C'est profond ce qui est en train d'avoir lieu dans le pays.
Vous avez raison, c'est certainement profond. Mais est-ce qu'on fait comme si, ardoise magique, comme s'il n'y avait pas eu une élection il y a 18 mois qui a été gagnée par un homme qui s'appelle Emmanuel Macron? C'est ce que vous demandez en fait?
Vous posez là la question de fond, c'est-à-dire que... Chacun constate qu'effectivement, il y a 18 mois, il y a eu une élection et elle n'a pas réglé les choses. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé? 4 candidats, mais Emmanuel Macron est arrivé en tête, hein. J'évacue d'entrée l'argument, je cherche pas à refaire l'élection, regardons cette élection. Elle a exprimé que aucun des 4 candidats qui est arrivé en tête, fût-ce Emmanuel Macron, qui fait 24% des voix exprimées, mais 18% des électeurs inscrits, est élu au second tour dans un rejet de Madame Le Pen. Il aurait dû avoir la sagesse, notamment de dire, je n'ai pas une majorité dans le pays, il faut nous rediscuter et nous reconstituer comme peuple politique pour voir quelles règles communes nous voulons avoir pour vivre ensemble. Lui, il s'est habillé dans le costume de monarque présidentiel de la 5e et il a pensé qu'il avait une majorité pour mener sa politique. Et nous en sommes là et quelque part...
Il avait la majorité.
Mais
il a eu la majorité au Parlement.
Essentiellement,
et
oui,
même large,
avec 55% d'abstention.
Ah oui,
non mais c'est la question de fond. Non mais soit on dit tout ça, on le met dans l'angle mort. Je me l'applique à moi-même pour pas qu'il y ait de faux procès. Je suis député de Montreuil et Bagnolet. Je fais 59% des voix au second tour. En vérité, il n'y a que 21% des électeurs inscrits qui ont voté pour moi. 80% des électeurs inscrits à Montreuil et Bagnolet n'ont pas voté pour le député Alexis Corbière qui pourtant les représente aussi bien qu'il peut à l'Assemblée. Et c'est le cas de tous les autres députés. Soit on dit tout ça, on s'en fiche. Soit ce peuple abstentionniste qui ne va plus voter parce qu'il a l'impression parfois qu'il est tenu à distance, que voter ne sert à rien. D'un seul coup, il ressurgit. Et de cette nuit démocratique, il met un gilet jaune et il dit « Regardez, nous sommes là. Et nous portons en nous-mêmes des revendications sociales. Parce que nous voulons l'augmentation du SMIC. Nous portons aussi des revendications contre l'injustice fiscale. Parce qu'il n'est pas normal, par exemple, que aujourd'hui, des impôts, la taxe comme la TVA pèsent plus particulièrement sur les milieux modestes, que l'on supprime l'ISF. Vous connaissez les revendications que porte... »
Éric Drouet l'a dit hier, Alexis Corbière. Il a eu des propositions politiques nombreuses, notamment du Rassemblement National. Et puis de chez vous, la France insoumise. Bon, vous n'allez peut-être pas aimer la question, mais je la formule quand même. Est-ce que c'est un hasard que ce soit ces deux partis, Rassemblement National et France Insoumise, qui draguent en quelque sorte politiquement Éric Drouet et pas d'autres ?
Alors, je vais faire une mise au point. Moi, je ne drague pas. Ce qu'a dit Éric Drouet manquait de précision. Nous n'avons jamais proposé à Éric Drouet d'être sur une liste France Insoumise. Il y a un comité électoral qui a choisi des candidats et je crois que ce qu'il dit, c'est que nous avons été approchés. Je vais faire un scoop. C'est moi qui échange avec Éric Drouet via la messagerie d'un célèbre réseau social, uniquement sous une forme extrêmement réduite, qui a commencé sur une plaisanterie d'ailleurs, parce que beaucoup de gens s'étaient amusés à ma ressemblance physique avec Éric Drouet. Un jour, j'ai envoyé un message en disant, après l'avoir croisé sur un plateau télé, et l'essentiel de nos échanges est que quand, par exemple, Christophe Castaner, c'est grave, hein, veut saisir la justice pour que des poursuites aient lieu contre Éric Drouet, je lui manifeste mon soutien et il me répond dans un échange. Voilà,
Donc, la seule approche. Rejoignez-nous, rejoignez la France Insoumise.
Franchement, Éric Drouet a bien raison de dire après, quand il, à l'occasion de cette émission, si on parle de la même, de dire que lui, il veut garder les gilets jaunes dans sa pluralité et qu'il n'est pas là pour se faire débaucher par des forces politiques. Nous n'avons jamais proposé ça et je crois même que c'est ce qu'il confirme lors de la même émission. Je ne drague pas qui que ce soit. Ouais. Par contre, ce que je regarde, ce que j'observe et qui me réjouit, c'est que ce mouvement, bien sûr divers, portant en lui beaucoup de choses, exprime des choses qui font partie du combat de toute ma vie, qui sont celles de plus de justice sociale, plus de la justice fiscale, et il faut changer ces institutions. Je trouve ça très positif.
Vous n'allez sans doute pas aimer la question que je vais vous poser également, mais c'est bien
de
repréciser.
Comme elle est posée par vous, je ne peux que la...
Oui. Vous l'avez dit vous-même, bien sûr qu'il y a une course de vitesse avec l'extrême droite pour être l'instrument politique de cette colère populaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors vous allez me dire les sondages, c'est une photographie à tenter, et c'est vrai, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est plutôt le Rassemblement National qui monte et vous qui baissez?
Alors, par exemple, c'est intéressant. Le Rassemblement National a obtenu 24% lors des dernières élections européennes. Il est considéré aujourd'hui à 18% et vous ne cessez de répéter qu'il monte. Donc, vous l'aidez.
Ça dépend des sondages. Il est à 20, à 24 pour certains.
Non, jamais. Je n'ai pas encore vu un seul sondage élection européenne qui le met au-dessus du score qu'il avait fait la dernière fois. Ce que je veux vous dire, c'est que ce serait feignant intellectuellement que de croire que parce que Emmanuel Macron a battu Madame Le Pen au second tour, que le Rassemblement National n'existait plus.
La question vient de vous poser.
Mais je suis en train d'y répondre. C'est-à-dire que ce que je suis
maintenant
en train de...
qu'on est d'accord sur les chiffres, peut aller au fond?
Oui, mais le diagnostic est important. C'est que si tout vous répétez, qui êtes la principale matinale de France, que le Front National progresse, etc., c'est-à-dire qu'il est en progression par rapport aux dernières élections.
Il est en tête, vous baissez. Est-ce qu'on peut se trouver là-dessus?
Oui, mais d'accord. Il est là. Oui, mais d'accord.
Trois mois après le début des Gilets jaunes, vous êtes membre de la France Insoumise. Oui. Est-ce que vous ne vous dites pas pourquoi est-ce qu'on baisse dans les sondages? Pourquoi la tendance est baissière dans les sondages?
Déjà, ce que nous dit le sondage que vous observez, c'est qu'à ce stade, seulement 30% des gens ont dit qu'ils allaient voter. Deuxièmement, j'ai regardé ce sondage dans le détail, les CSP+, se mobilisent à près de 40%, les milieux populaires sont à 20%. À ce stade, à l'heure où nous parlons, pour beaucoup de gens qui m'intéressent, c'est-à-dire la majorité de ce pays, notamment ces milieux populaires les plus touchés par la crise, l'élection européenne ne leur apparaît pas comme une échéance importante. Le but, et merci de me donner la parole, c'est d'ici le mois de mai, de convaincre que malgré le caractère ne pas faire croire que c'est là que ça va se passer, mais tout de même, ce qui va s'exprimer dans ces élections européennes a un enjeu. Ça, c'est faire campagne. Mais pour l'instant, cette campagne n'a pas commencé. Mais j'insiste, c'est pas pour la polémique. Cessez de répéter que le Rassemblement National surfe sur le mouvement, qu'il est le seul à en profiter. Et parfois, certains médias, pas vous, mais on fait quasiment la campagne de Madame Le Pen en louangeant le choix des têtes de liste et bien souvent après en conspuant ce que nous faisons en permanence.
Il semble pas qu'on fait ça.
Et voilà. Y compris après en mettant un signe égal entre nous et le Rassemblement
National. Les auditeurs sont nos juges de paix. Je leur donne la parole. Philippe, pour commencer, bonjour, vous êtes là Philippe?
Oui, bonjour.
Allez, on vous écoute, je crois que vous nous appelez de Paris, si je lis bien.
Exact. Oui, je voulais demander à M. Corbière s'il n'était pas un peu surpris de l'attitude de son patron, M. Mélenchon, qui d'une part critique l'attitude des policiers à l'égard d'une faible proportion de gilets jaunes, très faible proportion, qui sont en fait des voyous, et d'autre part, approuve les agissements de M. Maduro, responsable à balles réelles de milliers de morts.
Merci Philippe pour cette question. Alexis Corbière vous répond.
Bonjour Philippe. Bon, je passe sur l'aspect le patron, etc. Vous savez Philippe, arrêtons de nous parler comme ça. Jean-Luc Mélenchon est un responsable politique, ce n'est pas mon patron, je ne suis pas son salarié. Je polémique sur le mot parce que déjà le ton, c'est pas bien de faire comme ça.
Alors deuxièmement, le Venezuela.
Non mais attendez, deux sujets, je vais parler sur le Venezuela. La question, parce que je pensais qu'on en parlerait, de l'utilisation de matériaux par nos forces de l'ordre en France, qui est un vrai sujet. Le LBD-40, modèle de flashball, les grenades GLIF-4, vous en avez parlé, je sais, sur cette antenne. Le nombre de blessés conséquents, 14 œils éborgnés, 3 mains arrachées, 4 mains. Madame Zineb Redouane, je rappelle le nom de cette dame marseillaise qui a perdu la vie parce qu'elle avait pris une grenade lacrymogène. Bon, c'est quand même un vrai sujet, cher Philippe, sur le fait que, quel que soit ce qu'on pense du mouvement des Gilets jaunes, et on peut désapprouver ce mouvement, il y a énormément de blessés, et ça doit nous interroger
et
sur...
Philippe vous interroge ensuite sur le les Venezuela. Morts chez monsieur...
Je n'ai jamais approuvé les morts au Venezuela, ni même Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ce pays est face à une situation de crise qu'il faut aujourd'hui du débat, indiscutablement, plutôt que d'avoir une diplomatie alignée sur ce que fait Monsieur Trump ou Bolsonaro, qui veut rajouter encore plus à la crise de ce pays. Je pense qu'il faut que désormais ça discute. J'ai vu que le président du Mexique lui propose un débat. J'ai même vu que Monsieur Maduro est prêt à rentrer dans une concertation qui est de nouvelles élections. Et c'est une manière de sortir de la situation de tension dans laquelle est ce pays, qui vient de loin. Je rappelle à Philippe, il doit le connaître, vu qu'il a l'air d'être extrêmement cultivé, qu'au Venezuela, avant même que Chavez arrive, notamment en 89, 3000 personnes avaient été réprimées dans les rues de Caracas, notamment par un parti à l'époque lié à la Deuxième Internationale. C'est un pays violent où il y a de la violence dans la politique, ce que je désapprouve. Je n'ai jamais soutenu ça. La seule chose que j'ai dit, c'est que, attention, la crise qui est entretenue au Venezuela, j'ai envie de dire, suivez le pipeline, premier producteur de pétrole, deuxième producteur, je crois, d'or. Il y a un enjeu,
c'est
notamment
un peuple
de la
qui s'insurge, tout mais simplement.
Il y a une partie du peuple vénézuélien.
Vous dites que les Gilets jaunes, c'est un peuple qui s'insurge, mais le peuple français.
Il y a une partie du peuple.
Pourquoi il y a une géométrie variable?
Je suis en train d'essayer de répondre. Donc, il y a une partie du peuple vénézuélien aujourd'hui qui est en désaccord avec Maduro. Il y en a aussi une partie qui soutient le gouvernement. Ce pays est cassé en deux. Je pense qu'il ne faut surtout pas que ça se règle par la violence. Je pense que c'est pas en soutenant d'un seul coup un homme autoproclamé président comme le fait les États-Unis, qui a toujours aimé tripatouiller la situation en Amérique latine, qu'on va calmer les choses. Je propose donc qu'il y ait désormais une situation, une diplomatie active de la France qui dise il faut que les deux camps, si je puis dire, discutent entre eux, et que ça ne sera que par une solution, notamment allant vers un processus électoral, qu'on s'en sortira. Je dis à Philippe et à d'autres que pour ma part, je désapprouve évidemment si on tire sur les manifestants, et je désapprouve aussi qu'il y ait des manifestants qui soient armés au Venezuela contre le pouvoir.
Est-ce que vous condamnez ce que la politique et la gestion du pays par Nicolas Maduro?
Mais la phrase est extrêmement gênée. Il y a une opposition qui n'accepte pas
Je ne vous parle pas de l'opposition, je ne demande pas si vous soutenez le président
proclamé. Moi, je désapprouve toute forme de répression quand il y a des mobilisations.
Donc vous la condamnez.
Mais je dis, et vous le savez en plus, Léa Salamé, que là-bas, l'opposition à Maduro est tout aussi une opposition armée, violente. D'accord ?
Armée
et violente.
Absolument pas de
soutenir
l'opposition.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations de tension qui sont dues aussi.
Manifestement, c'est difficile de dire on condamne ce que fait Maduro qui tire sur ses manifestants.
Je vous ai dit, moi, je réprouve qu'on tire sur les manifestants. Je vous l'ai dit. Mais je dis aussi qu'il faut contextualiser les choses. Et que, en France, il n'y a pas de gens armés il y a pas des gens qui ont tiré sur des forces de l'ordre, il y a quand même des groupes qui ont soutenu des volontés de coup d'État. Je rappelle même que du vivant de Chavez, il y avait eu un coup d'État tenu par le patronat vénézuélien, où pendant quelques temps, Hugo Chavez, pendant quelques heures, avait été mis de côté. Bon, ce pays, il faut quand même comprendre la situation de tension dans laquelle il est depuis un grand moment.
Beaucoup de questions sur ce thème, sur l'application France Inter. Jean-Baptiste, par exemple, Monsieur Corbière, 600 000 personnes qui s'expriment, c'est peu, c'est bof. Comment qualifiez-vous à peine 80 000 personnes en gilet jaune? Même question, Monsieur Corbière, Arnaud vous la pose. À partir de combien de citoyens est-on le peuple? 18 députés, la France insoumise, sont-ils le peuple? 84 000 gilets jaunes sont-ils le peuple? 500 000 citoyens sont-ils le peuple?
Mais il y a un aspect polémique dans la question, mais moi je...
il n'y a pas que de la polémique.
Non mais parce que...
Si 500 000 personnes c'est peu, effectivement 80 000 gilets jaunes c'est encore moins.
Non mais 500 000 personnes, bon, ce sera la seule... Très bien,
pose la question,
je trouve ça bien que des gens s'expriment sur ce site. Moi j'ai pas désapprouvé. Ce que je dis, c'est que tous les gens de bonne volonté qui sont exprimés sur ce site risquent d'être dans une situation où je ne sais pas ce qui va être retenu. Ça ne peut pas marcher comme ça, une grande démocratie. C'est pas mettez vos contributions sur le site et un homme seul retient les sujets. C'est ça que j'ai dit, ou quand je dis c'est bof. Mmh. Et quelque part, ce qu'expriment les manifestations des Gilets jaunes, c'est pas seulement le nombre de gens mobilisés, c'est ce qu'on a vu, ce que ça exprime dans le pays. Enfin, non, 17 députés, France Insoumise, ça n'est pas le peuple. Mais s'il vous plaît, moi je suis là, gentiment, arrêtez de poser des questions qui ont, par la même définition, là je m'adresse pas à vous Nicolas Demorand, mais un aspect polémique. Si vous pensez que le mouvement des Gilets jaunes ne sont qu'un truc marginal, vous pensez, franchement...
Non, je vous répercute deux questions d'auditeurs.
Là, je parle pas à vous pour le coup. Le gouvernement sait bien que ce que ça veut dire, c'est un rejet profond dans le pays des premières années qui ont été menées, que beaucoup de choses ont choqué très majoritairement, notamment la suppression de l'ISF, l'augmentation de la CSG et nombre de choses, et que cette politique, les gens n'en veulent pas. D'accord. Après, vous pouvez dire ne pas approuver la France insoumise, mais au moins être d'accord sur le constat que les gens ne veulent pas du macronisme.
Une grande partie de la classe politique s'émeut que des djihadistes français soient sur le point de revenir ici en France après le retrait américain de Syrie. Le gouvernement dit qu'on n'a pas le choix. Ils sont français avant d'être djihadistes, a dit Christophe Castaner. Sur cette question qui est très compliquée, quel est votre avis?
Ouais, question compliquée. Je vais donner mon avis personnel. Moi, je suis pour qu'on garantisse la sécurité du territoire national. Et si ces gens qui sont dangereux, ça reste à préciser, mais on va partir du principe qu'ils sont dangereux. Franchement, le fait qu'ils soient dans la nature, parce que si j'ai bien compris, nos amis kurdes ne garantissent plus leurs conditions de détention. Mmh. Personnellement, je préfère les voir entre les mains de la justice française que de se dire, au nom d'une position théorique, ils vont peut-être être dehors, dans la nature, avec la potentialité qu'ils organisent des attentats contre le territoire national. Donc moi, je suis plutôt sur cette ligne-là. Et après, comme principe plus général, je suis plutôt pour que lorsqu'un ressentissant français, fût-il un salaud, fait quelque chose, eh bien, qu'il passe entre les mains de la justice française. Mais avant même ça, ma réflexion. À ce stade. Donc, j'ai pas envie de polémiquer avec le gouvernement là-dessus. Très bien.
Et sur le Brexit, l'Union européenne a envoyé une fin de non-recevoir à Theresa May. Il n'y aura pas de renégociation de l'accord. Qu'importe le nouveau vote du Parlement britannique. Là aussi, c'est une question extrêmement compliquée. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, question extrêmement compliquée. Moi, je pense que la pente libérale de l'Europe a aujourd'hui fait que on rentre dans un processus destituant aussi au niveau européen de crise. Il faut l'observer. J'approuve le fait que l'accord qui a été proposé aux Britanniques était un mauvais accord qui contenait en lui-même des choses que nous avons rejetées en France, notamment cette concurrence libre et non faussée qui était dans l'accord. Et donc cette volonté un peu avec une méthode de chausse-pied d'imposer cela. Créer les conditions de cette crise. Après, il y a un problème aussi de direction politique parce que c'est des libéraux anglais qui eux aussi ne sont pas très clairs bien souvent sur toutes ces questions politiques épuiser la mobilisation du peuple britannique qui ne voulait pas à la fois d'une Europe libérale mais qui sans doute aujourd'hui manque d'une représentation politique claire.
Vous l'avez balayé d'un revers de main au début de l'interview, l'histoire du cumul des mandats. Oui. Édouard Philippe n'exclut pas de revenir sur cette règle du non-cumul des mandats, notamment pour les petits maires, les maires de petites villes. Quel est votre avis sur la question?
Moi, il sera simple. Écoutez, je suis sans doute j'ai pas moins de capacités que d'autres. Moi, dans mon travail de député, je ne me vois faire que ça. Je ne serais pas capable d'être maire d'une commune, fût-elle petite. Donc je suis pour quand même le mandat unique de député et je suis contre le cumul des mandats, c'est ma ligne. Et je suis étonné, là je vois une astuce, c'est un sujet sorti du chapeau par le Premier ministre pour nous faire discuter, qui montre bien, vous voyez cher Nicolas Demorand, c'est fabuleux ces 500 000 Français qui sont allés sur le site, mais si c'est pour les amuser à la sortie sur des débats annexes, alors que moi ce que je vois c'est plutôt fondamentalement la question du partage des richesses, la volonté de donner des droits nouveaux aux citoyens, c'est pas reculer sur le fait qu'on retrouve franchement les petites baronnies de ceux qui cumulent maires, députés. Et moi je vous le dis à ceux qui m'écoutent, c'est la première fois depuis un an et demi de ma vie que je suis député, peut-être que ce sera mon seul mandat dans ma vie, j'arrive à peine à faire la totalité des choses qui me sont demandées. Être maire à côté, c'est totalement impossible.
Merci Alexis Corbière.
Merci à vous.
Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis au micro d'Inter.